Ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir, il est pas toujours là où on nous le montre. On nous montre que les jeux de pouvoir se jouent dans les primaires, dans les congrès politiques, des partis politiques, et que les débats à l'intérieur de l'UMP ou du PS règlent la question du pouvoir en France. Mais il y a un pouvoir qu'on nous montre pas. C'est le pouvoir des conseillers, des experts, de l'administration non élue. Parce que ces gens-là, ils gravitent autour des dirigeants politiques, de droite ou de gauche, hein, quelles que soient les majorités. Et ils leur proposent à chaque fois les mêmes politiques, les mêmes recommandations de politique économique. Et ce pouvoir des coulisses, ce pouvoir caché qu'on nous montre pas, eh ben Emmanuel Macron, il le connaît très bien. Il en est directement issu. Il est allé directement dans les instances du pouvoir, là où ça compte, à l'inspection des finances, au secrétariat de l'Elysée, dans toutes les commissions où s'élaborent les politiques économiques, via les deux mentors Jouyé et Attali. Et donc, il a squeezé la case élection parti politique. Et c'est ça qui fait sa force. C'est que comme on l'a pas vu tremper dans mille magouilles, comme on voit sa gueule à la télé uniquement depuis 3 ans, eh ben, on peut construire une image complètement nouvelle, fraîche, de renouveau, alors qu'il n'y a pas plus insider, qu'il n'y a pas plus coutumier du vrai pouvoir, le vrai pouvoir technocratique, qu'Emmanuel Macron. C'était en somme le candidat idéal pour nous arnaquer à cette élection présidentielle. Nous, il nous reste qu'un seul moyen pour lutter contre cette arnaque, c'est de faire passer le message pour lutter contre cette supercherie. Puis bon, on se revoit vite pour dégonfler son programme, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup à dire. Ciao les copains!
Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale au cœur de la campagne. Depuis le soir du premier tour, l'étau s'est resserré, les espoirs de changement se sont noyés dans les larmes de la défaite, la colère, le dépit se sont emparés de beaucoup d'entre nous. Les deux projets politiques qui s'affrontent désormais pour le deuxième tour forment les deux bords d'une impasse dans laquelle chacun répugne à s'engager. Et nous voici donc nassés dans cette impasse. Alors plutôt que d'étouffer de rage, de désarroi, peut-être aussi dans la Discord, il y a sans doute mieux à faire, piégé dans cette nasse. Peut-être est-il plus intéressant de s'efforcer de discuter, d'échanger, d'oser causer, non pas pour vous enjoindre d'adopter telle ou telle tactique pour le second tour. Il semblerait plutôt que les injonctions qui ont saturé le débat public ces derniers jours se soient montrées contre-productives. Il ne s'agira donc pas de vous inciter à faire ceci ou cela, mais il s'agira plutôt d'échanger pour se ressourcer à l'énergie de l'échange et de la jeunesse. Alors cette énergie, cette jeunesse, c'est l'équipe de Osons Causer, qu'il incarne aujourd'hui autour de cette table. Xavier Cheung, Ludo Torbay, Stéphane Lambert, vous animez depuis bientôt 2 ans un média en ligne, Osons Causer, qui est fort de plusieurs millions de vues. Aujourd'hui, média d'intervention autant que d'information. Vous avez contribué à construire le phénomène « On vaut mieux que ça » l'année dernière, phénomène qui a été décisif dans l'amorçage de Nuit Debout et dans la lutte contre la loi travail. Et puis ensuite, vous avez jeté toutes vos forces dans la campagne de l'élection présidentielle, épluchant les programmes, les candidatures, les affaires, jusqu'à exprimer dans les derniers jours un soutien en faveur du programme de l'Avenir en commun, soutenu par Jean-Luc Mélenchon, lequel Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé en 4e position au soir du premier tour. Alors pour commencer cette discussion à bâton rompu, que vous inspire cette 4e position au soir du premier tour pour Jean-Luc Mélenchon ?
Alors moi, je suis assez déçu par les résultats, mais en même temps, je vois qu'on est passé de 11 à 19%, plus de 19%, donc c'est un excellent résultat. Et puis, la campagne de la France Insoumise a été magnifique, hein, je pense. Les meetings ont été très suivis. Il y a eu une très très belle campagne sur Internet avec un jeu vidéo, tout un groupe de Discord, donc de gens qui s'auto-organisaient pour faire un jeu vidéo, pour organiser des interventions, des campagnes en ligne. Il y a eu le Mélenphone, je crois.
C'est un truc où tu appelais des gens au téléphone pour...
Ah, ils organisaient le phoning avec le Discord.
C'est un peu comme Macron, mais sauf que sans avoir les 6 millions de numéros à appeler automatiquement, donc tu fais ça plus...
Mais donc on appelle des gens pour les convaincre de voter Jean-Luc Mélenchon.
Du coup, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'était sur le Discord, et donc du coup auto-organisé par les ressources humaines en ligne, par les volontaires en fait.
Et alors, donc, il y a cet enthousiasme pour la campagne de la France Insoumise qui a été effectivement assez spectaculairement enthousiasmante. Mais s'agissant donc des deux candidats qui arrivent finalement, qui sont finalistes, qu'est-ce que ça vous inspire, ce binôme-là, donc Macron-Le Pen ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a ce binôme-là qui nous avait un peu été annoncé depuis que Fillon avait été plombé par ses affaires. Mais en fait, ce que nous, on a trouvé intéressant, malgré la déception... c'est qu'en fait, les deux sont assez bas, finalement, on trouve. Mmh. Macron, pendant très longtemps, était annoncé beaucoup plus haut. Et on voit que, bon, il a fait un peu moins de 24% et que la moitié des gens qui ont voté pour lui l'ont fait sans adhérer à son programme. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, je me souviens, ça fait plus d'un an qu'on nous l'annonçait à 30, à des scores incroyables, etc. Et au final, bon, elle est bien en dessous de toute la ligne de sondage qui avait été donné. Et ça, on trouve ça intéressant quand même de voir en fait ces
deux-là sont
sortis devant, mais que ce n'était pas si large que ça.
Elle a gagné, Marine Le Pen, que quelques centaines de milliers de voix par rapport à son score historiquement haut des régionales. Hein, alors que d'habitude, le Front National fait des scores immenses aux présidentielles, beaucoup plus hauts que dans toutes les élections intermédiaires. Et là, les régionales de 2015, elles étaient particulières parce que c'était des élections intermédiaires avec un score très haut et historiquement haut du Front National. Et par rapport à ce score de 2015, elle a gagné que quelques centaines de milliers. J'ai oublié, mais c'est pas proche d'un million, c'est plutôt proche de 500 000. Mmh. Elle a gagné très peu de voix. Et ça... c'est marrant parce que, quand même, il y a Fillon qui incarnait une droite dure, mais très dure, ferme sur tous les trucs d'islamophobie. Il y a juste après le quinquennat de Valls.
Ferme sur tous les trucs d'islamophobie, ça veut dire plutôt à tendance islamophobe.
Ouais. Et qui pouvait être en affinité avec pas mal d'électeurs frontistes, surtout du Sud-Est. Et cette droite-là s'effondre, puisqu'il y a des affaires et sa candidature est plombée. Et même dans ce contexte plutôt favorable, elle n'accroît son score que de. Finalement, très peu. On va voir ce qu'elle fait au second tour. Sûrement que là, il y aura un plus grand accroissement, puisqu'au second tour, normalement, quelques voix devraient se reporter sur sa candidature. Mais quand même, ce n'est pas un succès si important.
Ouais.
Et du coup, ouais, à décrypter, si on regarde un peu plus largement ces résultats de campagne, y a un truc très commenté, c'est que les deux partis traditionnels, les éternels UMPS qui se passent le pouvoir à l'infini, ces deux-là se sont écroulés. On annonçait un boulevard à Fillon, il s'est écroulé. Hamon, sa candidature est quasiment négligeable. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et sinon, on voit que peut-être que toute la dynamique de mobilisation sur la loi travail, tout ce qui commence à se passer sur les médias alternatifs, tout le foisonnement d'expression citoyenne et de mobilisation qu'on voit sur Internet, peut-être que tout cet élan-là, il a contribué à donner tout ce crédit et tout cet élan à la candidature de la France insoumise.
En particulier, si on regarde ce qui arrivait pour les jeunes. Là, c'est pareil. Moi, je me suis un peu amusé à regarder ce qui nous était promis depuis des mois. On nous promettait Marine Le Pen première, Macron juste derrière, autour de 30.
Chez les jeunes,
etc. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au final, Mélenchon est arrivé premier autour de 30. Ça dépend des sondages sortis des urnes, c'est pas encore très clair, mais autour de 30. Et Marine Le Pen deuxième et Macron troisième, qui sont dans un mouchoir de poche autour de 20, mais bien, bien en dessous de ce qui était annoncé pendant des mois.
Ouais.
Et voilà, donc ça, on pense que probablement, ce qui s'est passé sur Internet, qui est très large, hein, il y a des choses comme ce que nous, on a fait, il y a des choses comme ce qu'on fait des médias qui n'ont rien à voir, genre des trucs genre Combini, BuzzFeed, des trucs de buzz, mais qui ont fait beaucoup de détournements politiques, qui en fait étaient, de notre regard extérieur, étaient assez taquins avec Fillon, Macron, pendant toute la campagne. On pense qu'il y a eu vraiment un truc large qui s'est passé sur Internet et qui explique peut-être en partie que chez les jeunes, Fillon, il est à moins de 10, et Macron et Le Pen sont pas si hauts que ça, et que la candidature de Mélenchon est à 30%. Quoi.
Alors maintenant, on se retrouve donc dans ce que j'appelais cette impasse, où maintenant donc, c'est le binôme Macron-Le Pen qui s'offre à nous, avec un grand effarement, soi-disant, de l'opinion, et l'injonction à faire front républicain, à voter pour Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors cette notion de front républicain, j'aimerais bien savoir ce qu'elle vous inspire. Qu'est-ce que ça veut dire la République ou le front républicain dans une société qui a, il y a quelques mois, tasé, gazé, nassé, interpellé, gardé à vue tous les opposants qui s'efforçaient de lutter contre la loi travail, qui a procédé à des interpellations, des arrestations, des emprisonnements, dont certains durent encore. Est-ce qu'on peut parler encore de front républicain dans une société qui passe ses lois au 49-3 et qui fait une répression policière hyper violente contre ceux qui s'y opposent? C'est encore la République, ça?
Tu viens de pointer un des gros défauts et un des gros retournements du quinquennat de Hollande. À partir de ce quinquennat, le Parti socialiste, avec une figure toute bonhomme, avec encore plus de joues que moi, et qui a l'air tout gentil, avec ce visage-là, le Parti socialiste s'est livré à une politique qui est extrêmement autoritaire. Tu rappelles toutes les tas d'urgence, les interdictions de manifester, le gazage, le nassage, le 49-3, la déchéance de nationalité, ça c'est cadeau. Le mec, il est arrivé exactement sur la conception de l'identité nationale frontiste. C'est, si on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité, c'est qu'il y a, s'il atteint un certain nombre de valeurs, c'est qu'il y a un cœur de valeurs, ou un cœur de sentiments, ou un cœur ontologique, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ce cœur-là, qui définit le français. Et on peut le déchoir s'il sort de ce cœur qui serait la France. Ça, c'est la conception d'identité frontiste. Donc, tu as tout à fait raison de pointer que ce quinquennat-là opère un glissement vers un État autoritaire et vers des thématiques ou des projets souvent assimilés au Front National. Et donc, c'est vrai que le Front Républicain paraît un peu fort le café quand on sort de ce quinquennat-là. Mais ils ont réussi une opération marketing géniale, quoi. Comme c'est Macron... On a lavé plus blanc que blanc, les enzymes gloutons, on le reconnaît pas, c'est exactement comme François Hollande, mais c'est plus lui, tu vois. Et ça, c'est magique, c'est génial, parce qu'en plus, comment est-ce qu'il sort du gouvernement, Macron ? Il quitte le gouvernement avec le motif de la déchéance de nationalité.
Six mois plus tard, quand même.
Mais six mois plus tard, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait pendant la répression de la loi travail ? C'était sa loi, la loi travail, il devait la soutenir. Ouais. Mais il y a une guéguerre entre Valls et lui qui a fait qu'il ne pouvait pas assumer une deuxième grande loi, et donc Valls a insisté pour que ce soit El Khomri. Mais à la base, c'est sa loi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a absolument rien dit pendant toute la répression, et même, il persiste en disant qu'il va faire une loi travail puissance 1000 par ordonnance dès l'été. Et donc, c'est vrai que là, le Front Républicain paraît un peu fort de café. Mais comme ils ont réussi à laver plus blanc que blanc et à blanchir ce quinquennat avec une nouvelle tête qui n'est pas assimilé à tous ces abus, premier point, du coup, il devient plus soutenable. Et puis ensuite, pour beaucoup, et c'est très, très légitime dans l'histoire politique ou large du XXe siècle ou même récente de la France, de continuer à considérer le Front National comme une menace autoritaire et violente pour un pacte plus ou moins républicain ou identitaire, mais pour ce qu'on considère être la France. C'est encore violent pour les gens d'imaginer le Front National au pouvoir ou le Front National élevé. Et donc les deux ensemble.
Mais quand même, il y a la deuxième partie de la pièce, quoi. Il y a d'un côté où les gens ont pris cher sous Hollande et ont vu des dérives autoritaires, des lois passées au forcing, etc. Et l'autre côté de la pièce, c'est que pendant ce temps-là, Marine Le Pen, c'est pas le même positionnement, la même image, etc. La même image dans la population largement que Jean-Marie Le Pen en 2002.
Oui. Tu parles de la dédiabolisation,
exactement.
La banalisation.
Ça a eu une certaine efficacité. Ça a quand même marché jusqu'à un certain point. Et Marine Le Pen, elle se pose de plus en plus. Et là, on le voit dans les débats d'entre-deux tours. C'est vraiment, quand elle essaie de draguer un peu les électeurs de Mélenchon, c'était vraiment évident. Elle s'est posée assez facilement dans des habits de contestation, des abus, même des abus autoritaires certaines fois de Hollande, dans l'idée qu'elle défendrait les petites gens face aux lois travail, au CICE, etc. Et du coup, ce mouvement-là qui dure depuis quand même un moment, elle l'a entamé quand même au moins en 2007, ça commence à porter ses fruits aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont moins peur, qui sont un peu moins dégoûtés du Front National de maintenant que de celui de
Mais tu penses qu'il se trompe d'avoir moins peur, c'est-à-dire qu'il y aurait encore derrière la candidature de Le Pen vraiment une menace fasciste, ou bien est-ce que cette dédiabolisation, elle correspond aussi à une banalisation de la proposition de Le Pen, c'est-à-dire effectivement que Le Pen, qui est quand même une grande bourgeoise qui a grandi à Saint-Cloud, elle est peut-être moins une espèce de fasciste complètement délirante que ne l'était son père. Enfin, cette dédiabolisation cache un projet fasciste, ou bien un projet qui s'est lui-même banalisé et qui serait plus soluble dans les formes, de toute façon, de la post-démocratie dans laquelle on est rentré.
C'est dur à dire. De toute façon, là, il faut lire les intentions derrière quelqu'un. Tout ce qu'on a, c'est son histoire politique. Ouais. L'histoire politique large de son courant, elle laisse clairement entendre et craindre d'un virage fasciste. Et c'est tout à fait évident. Ça, c'est l'histoire politique large. Ouais. Mais quand on regarde son populisme, elle a quand même adapté sa communication, et elle est excellente en communication politique, pour prendre un espace de défense du peuple. avec des habits évidemment patriotes, nationaux et plein de classiques de sa famille politique, mais sa manière d'être populiste et se poser en défenseuse du peuple peut-être laisser penser que ce sera peut-être pas le même fascisme que celui qu'on prêtait à son père, mais personne pourra le sonder. Oui. Par exemple, elle propose des mesures de démocratisation qui vont beaucoup plus loin que tout ce que Macron proposera jamais. Elle propose le référendum d'initiative populaire, c'est un truc de fou. Ouais. Son programme, d'un point de vue démocratique, est moins pire que celui de Macron. Ouais. On croit
sur
rêver.
Sur la lettre du programme.
Si on lit le programme. Oui. Et donc, du coup, c'est très difficile de répondre parce qu'elle a compris. Et ça, je pense que c'est un enseignement fort de quelqu'un qui a accompagné son père pendant toute son existence, vu que c'est sa fille. Elle a très bien compris qu'un des défauts du positionnement politique de son père, c'était d'être beaucoup trop bourrin et assimilé à l'extrême droite du XXe siècle. Et elle a capté qu'il fallait répondre aux besoins de souveraineté du peuple, que le peuple se faisait marcher dessus, notamment le vote européen de 2005, se faisait marcher dessus par les élites et l'Europe. Elle a capté ce positionnement-là. Le peuple avait besoin d'être davantage écouté. Elle a répondu à ce besoin de démocratisation. Et donc, quand on lit le projet, c'est vrai que c'est pas exactement le même projet et pas du tout un projet aussi dangereusement fasciste, tout du moins potentiellement, que celui de son père. Mais après, ça reste une inconnue. Personne ne peut décider ce qu'il y a dans la tête. On peut voir ce qu'ils font au pouvoir dans toutes les mairies, les régions où ils sont au pouvoir, les frontistes. Et là, quand même, c'est pas tip-top.
Oui, c'est vrai qu'à l'échelle des municipalités. Mais précisément, à la limite, il y a peut-être moins de contre-pouvoirs possibles à l'échelle des municipalités que dans l'hypothèse où Le Pen accéderait à la présidence. On sait bien qu'il y aura un certain nombre de contre-pouvoirs qui permettraient de limiter la casse. Et on peut redouter que face à Macron, il y ait moins de contre-pouvoirs puisqu'il a tout le système médiatique avec lui. Et donc, on peut aussi raisonner presque en se disant mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas plus de totalitarisme dans le projet Macron qui a avec lui la totalité des organes du pouvoir que dans le projet Le Pen? C'est terrible de dire ça, mais il faut oser le dire. Que dans le projet Le Pen où on sait qu'il y aurait énormément de vigilance et de contre-pouvoirs qui rentreraient éventuellement en
opposition. C'est compliqué parce qu'encore une fois... Hollande a eu l'excellente idée de foutre l'état d'urgence jusqu'au moment où éventuellement Marine Le Pen pourrait accéder au pouvoir. Ça permet de faire pas mal de trucs. Hein. Quand même, la Constitution française, elle permet au président de faire pas mal de trucs, et dans une situation d'état d'urgence particulièrement. Du coup, c'est clairement un jouer avec le feu quand même. Enfin, c'est assez dur à lire ce qui se passerait, d'autant plus que le truc très probable, c'est qu'elle n'aurait pas de majorité de députés, même s'il y aurait sûrement un éclatement de la droite, une partie qui irait manger et essayer de s'allier avec elle, etc. Mais on peut penser qu'elle n'aurait probablement pas de majorité, mais du coup, elle aurait tout intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, à essayer de tendre les relations en interne pour que les gens donnent majorité au FN. Et donc, ça augurerait sûrement de mois ou d'années très compliquées aussi.
Xavier, on ne t'a pas entendu sur la notion de front républicain, dont j'ai l'impression qu'elle ne vous concerne pas tellement. Enfin, vous ne vous sentez pas tellement concerné par cette notion-là. Tu rejoins ce point de vue-là?
Ouais, j'aurais du mal à avoir vraiment un avis dessus, là. Mais j'ai l'impression que parler toujours de front républicain, ça empêche de réfléchir à vraiment la montée du FN, quoi. Un peu, on se focalise sur ça et on ne se demande pas pourquoi, depuis des années, il y a autant d'électeurs qui sont... très tôt, qui sont vraiment très très motivés par le Front National dès le début, et on voit que c'est les électeurs qui votent le plus par conviction, et du coup je pense que il faut se poser la question de pourquoi le FN et qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen arrive à regrouper autant de gens autour de son projet.
Plutôt que de faire barrage, il faut fermer le robinet. J'ai vu passer cette image, quand l'eau monte, au lieu de faire monter le barrage, il faut peut-être fermer le robinet, c'est-à-dire travailler sur les causes de la montée du FN.
L'automaticité et l'injonction au fond républicain empêchent de se poser ces questions. T'as raison, Xavier.
Tout à fait.
Il faut faire ça.
Alors, donc, là, dans cette campagne présidentielle dans laquelle vous avez jeté beaucoup de vos forces militantes, il m'a semblé vous voir intervenir énormément, avec beaucoup de compétences, un travail à chaque fois pour éplucher les projets, les affaires. Bon, vous êtes jeté à corps perdu dans la bataille électorale, en considérant donc que la bataille électorale est une bataille décisive et dans laquelle il faut peser. Or, il y a toute une partie de la jeunesse... qui considèrent que la politique ne se joue pas dans les urnes, qu'au contraire, les urnes, c'est le mouroir de la vie politique. Je pense évidemment à toute la jeunesse du cortège de tête qu'on a vu apparaître et croître l'année dernière dans le cadre de la lutte contre la loi travail. Cette jeunesse-là, elle a vos âges, elle choisit la rue, l'expression libre, les tags, plutôt que les urnes. Elle dit même que quand on vote... On est coupable de se rendre complice, en fait, du système que l'on dénonce. Mmh. Alors, vous, comment vous vous situez avec cette autre partie de vous-même, cette jeunesse qui refuse le choix des urnes?
En fait, déjà, bon, il y a deux trucs. C'est que d'une part, de cette jeunesse-là, elle est aussi allée voter. Parce qu'il y a des... je dis pas tout le monde, hein, mais moi, j'en connais pas mal. Et qui ne comptaient pas aller voter au départ. Et puis finalement, sont allés le faire. Donc,
sur quel motif sont-ils in extremis allés le faire quand même?
Parce que, pour la même raison que nous, au final, on a dit qu'on allait voter Mélenchon alors qu'on n'avait pas prévu de se positionner dans la campagne.
C'est-à-dire arguant de l'exceptionnalité
de
cette situation.
Il s'est passé un truc assez exceptionnel qui n'aurait pu nous éviter d'avoir le deuxième tour dont on vient de parler depuis 10 minutes et qui ne nous rend pas en joie. Et il y avait une petite brèche avec notamment une constituante qui aurait pu permettre justement de changer certains trucs de ce processus électoral qui dégoûte beaucoup de gens et pas que ceux qui sont dans les cortèges de tête. Ça, c'est un premier point. Et après, nous, il y en a un deuxième point qui est que si on intervient dans la campagne, c'est pas forcément qu'on pense que... qu'il va se passer un truc dans la campagne, on ne pouvait pas le savoir à l'avance, et donc c'est décisif. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la campagne présidentielle, c'est un moment où les gens, largement, ont envie de comprendre des trucs.
Vous profitez de la disponibilité du public.
Pour nous, c'est, vu que notre but, c'est d'essayer de transmettre des outils d'analyse, d'intéresser les gens, d'augmenter un peu le niveau d'esprit critique, de nourrir les gens qui ont envie de nourrir le leur, en tout cas. La présidentielle, c'est un des moments où les gens sont chauds,
les débats se tendent, etc. Il y a une très grande réceptivité. Mmh. Et en même temps, quand on voit les objets sur lesquels vous avez travaillé, par exemple la question du Conseil constitutionnel et la manière dont il fait blocage, la manière dont les lobbies travaillent à Bruxelles, en fait, vous êtes absolument passionné, à raison, à juste titre à mon avis, par la question des verrous institutionnels. C'est-à-dire que la question institutionnelle vous préoccupe prioritairement. Et je devine que dans votre logiciel politique, l'enjeu, c'est d'aller travailler à ces endroits-là, des verrous institutionnels. Et rien que cette démarche-là, de considérer que tout se joue dans les institutions, sur les blocages institutionnels, déjà ça vous situe en fait du côté de la politique institutionnelle et pas du tout du côté de toute la jeunesse du cortège de tête, de celle qui lit le comité invisible par exemple, l'insurrection qui vient à nos amis et le dernier ouvrage s'appelle maintenant, cette jeunesse-là qui dit qu'au contraire, c'est dans les institutions que tout meurt, il faut s'en éloigner, les tenir le plus loin possible de nous et s'auto-organiser sans jamais compter sur l'État, sur les institutions, sur la Constitution. Constituer pour une partie de cette jeunesse-là, constituer, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il ne faut que destituer. Vous voyez, je pense que vous avez une vraie passion politique institutionnelle.
Pour revenir au comité invisible, je comprends totalement leur position et leur envie de dire merde à tout. Et nous, c'est vrai qu'on a de base, avant même Osons Causer, on a beaucoup réfléchi sur la question des institutions. Et nous, on a toujours été pour réfléchir sur une constituante, changer les institutions, changer les structures, parce qu'on pense que c'est par là qu'on arrivera ensemble à s'en sortir. Et c'est vrai qu'on a fondamentalement une divergence avec les autonomes, les gens du comité invisible. On pense que c'est en gagnant une élection présidentielle qu'on arrivera à certainement à faire changer les choses, parce que c'est la voie par laquelle les dominants nous ont laissé un échappatoire. Voilà, c'est par cette question-là.
Échappatoire il y a, parce que ce qui s'est passé à ce premier tour montre plutôt que, en fait, toutes les issues ont été verrouillées. Précisément, la présidentielle ne constitue plus une échappatoire.
Regarde, l'argument du vote, c'est pas un truc total et absolu, mais c'est juste que ça coûte très peu et permet de gagner pas mal. C'est un bon pari pascalien. Parce que, en gros, si toi et moi, on choisit la rue, on peut se battre, on peut occuper notre espace public, on peut construire notre cercle autonome avec peut-être de l'autosuffisance alimentaire, des échanges culturels entre plusieurs grappes de petites fermes ou de petits lieux havres de paix. Ça, on peut faire ça. Mais si on veut, par exemple, lutter contre les particules fines qui sont responsables de près de 50 000 morts par an, eh ben, c'est pas par grappe de ferme qu'on va faire qu'on va changer la fiscalité du diesel. Il y a plusieurs autres questions qui ne sont pas accessibles à l'auto-organisation spontanée, repliée de chaque individu. Et du coup, ça suppose d'emblée, je suis assez d'accord avec Lordon sur ces questions, on est d'emblée jeté dans l'élément institutionnel, on est d'emblée connecté tous ensemble. Et il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. Et pour résoudre ces questions, il y a des enjeux d'information. Alors d'abord, il faut que tout le monde soit conscient que ces enjeux se posent comme ci et comme ça. Et une fois qu'on est informé, il faut, pour résoudre ces enjeux-là, l'arme du vote, quand même, elle peut emporter beaucoup pour un coût très faible. Si on choisit tous ensemble de voter un jour, une fois tous les 5 ans, tel ou tel bulletin, ça ne nous coûte rien. Et si on gagne, ça ouvre des brèches pour tous ces trucs-là. Et donc, pour nous, rejeter le vote comme tel, c'est bête. Parce que si tu rejettes le vote, comment tu vas changer la fiscalité du diesel? Comment tu vas changer la manière dont sont traitées les minorités? Comment tu vas changer l'inégalité des chances à l'école? Comment tu vas changer les frais d'inscription à l'université? Comment tu fais ça?
Alors, je pense qu'on te répondrait du côté de ces mouvements-là. Ça coûte, par exemple, parce que ça mobilise toute notre espérance. Tout notre espoir au moment des campagnes politiques est investi dans le projet institutionnel. Et cet espoir-là, il est un éteignoir à notre révolte, notre colère, et du coup, il nous prive de l'énergie nécessaire pour faire autrement. Et faire autrement, ça veut dire vraiment déserter, comme ils disent, déserter ces institutions-là qui, de toute façon, sont vouées à nous détruire, parce qu'on peut considérer aussi que l'appareil de la démocratie électorale, c'est un appareil qui est conçu dans le cadre capitaliste pour préserver le cadre capitaliste. Voilà. Et que donc, tant qu'on vote, en fait, on remet un dollar dans la machine qui fait tourner le cadre capitaliste.
Oui, bien sûr, c'est un pari. Après, moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. En fait, il y a l'opposition entre voter et s'engager dans du mouvement social, dans des actions associatives, dans la vie quotidienne. Elle se pose pour peu de gens, en fait. Mmh. On pourrait tout à fait dire, à l'inverse, que pour beaucoup de gens, le moment des moments électifs sont des moments électoraux, sont des moments où, en fait, ils se prennent au jeu de la politique. Et après, ça va nourrir comme des manifs. Hein, comme des manifs à 16 ans peuvent nourrir une trajectoire militante pendant 40 ans. De la même manière, une élection peut faire un passage de questions, de réflexion, de quel projet de société on veut, qui va nourrir des actions militantes qui n'auront rien à voir avec la politique institutionnelle pendant 30 ans. Et en fait, pour certaines gens, effectivement, ça peut être un espoir qui les dégoûte ensuite. Pour d'autres, ça va les nourrir. Mais pour nous, c'est deux questions. Encore une fois, c'est ce que disait Xav, c'est deux questions. Il y a ce qu'on nous, ça ne nous empêche pas de faire des trucs dans la rue non plus.
Oui, ce n'est pas incompatible. Ces deux approches complémentaires.
Nous, ce qu'on fait, c'est de la politique au sens très, très large.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas pour ça que ça nous empêche de aussi éventuellement voter si on pense que c'est utile. Parce qu'il y a des fois où on ne vote pas non plus. Ce n'est pas non plus une position de dire qu'il faut tout le temps voter. Le salut passe uniquement par le vote. C'est que le vote. Évidemment que c'est extrêmement important de faire des médias indépendants, pour quelqu'un de faire une association pour aider les gens qui n'ont pas de bouffe à bouffer, de faire des manifs de rue sur tel ou tel truc, etc. De se mobiliser dans tous les moments où on est face à la politique institutionnelle qui a gagné et où on essaye de faire valoir d'autres manières de vivre ou d'autres exigences.
Tu voulais intervenir sur ça.
Tu disais que c'était que la réponse que pourraient donner les autonomes à notre position serait de dire qu'on engagerait de l'énergie dans autre chose qu'avoir un autre mode de vie ou aller, je ne sais pas, je vais caricaturer, mais tabasser des flics ou faire des manifs. Mais je ne vois vraiment pas en quoi c'est incompatible. Quoi. Ouais. Vraiment, concrètement, si on réfléchit concrètement et pas dans des idées abstraites comme ça, en quoi aller un dimanche mettre un bulletin, ça pose problème parce que ce n'est pas passer deux semaines ou un mois à suivre.
Parce que vous avez passé des semaines à éplucher les programmes en les prenant au sérieux, par exemple. On pourrait considérer que de toute façon, cette vaste mascarade est verrouillée d'avance. Tu vois, elle est là, votre énergie. Ce n'est pas tellement le dimanche où tu vas glisser ton bulletin dans l'urne, ça te prend un quart d'heure. Mais c'est que vous, Osons Causer, pendant des semaines, vous avez fait un travail de brut sur les programmes, les candidats, les affaires, tu vois.
Alors il y a évidemment le fait que ça permet de comprendre, de s'intéresser, etc. Mais si tu regardes bien, on n'a pas tant parlé des programmes que ça.
Ouais.
C'est un détail, mais c'est un détail important. D'accord. Nous, on a beaucoup plus parlé de ce que les gens avaient fait, quelle était leur trajectoire,
etc. Les actes qu'ils ont posés,
Donc ce qu'on montre, c'est... Ou alors on montre le décalage entre le programme et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vraiment l'appliquer. Dans le cadre du Conseil constitutionnel, on a bien montré que si tu avais des éléments dans ton programme dont on savait qu'ils allaient être censurés et que tu ne proposais pas de changer le Conseil constitutionnel, en vrai, tu te foutais de la gueule des gens.
Ouais.
Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas juste de dire « prenons les programmes, on va y croire, regardez, machin dit qu'il veut faire truc, c'est génial ou c'est pas génial. » C'est essayer de montrer, d'après nous, là où on en est de notre compréhension du monde, c'est pas la vérité, mais de montrer, d'après nous, ce que veulent dire des candidats, ce que ça signifie leur candidature, qu'est-ce qu'il y a derrière. Macron, qu'est-ce que c'est le CICE, qu'est-ce que c'est la politique de l'offre. Ça, c'est... Ou Hamon, qu'est-ce que c'est d'avoir le PS derrière soi comme appareil ? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire des choses que justement il dit dans son programme ? Et du coup, nous, on a l'impression que c'est clairement un moment qui permet de transmettre beaucoup. Quitte à heurter les gens qui ont envie vraiment, pour eux, pour le coup, de croire au programme. Et puis,
c'est notre taf. Nous, on est des producteurs de discours. Le comité invisible produit des discours une fois tous les X ans sous forme de bouquin. Nous, on produit des vidéos beaucoup plus régulièrement et c'est notre métier de produire un discours qui corresponde au moins au minimum, en les décalant, mais qui corresponde aux attentes des gens qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Si on publiait des trucs sur uniquement la manière de s'auto-organiser ou les bonnes formations de lutte contre un camion à eau et une brigade et une compagnie de CRS. Non, mais on pourrait très bien. De toute façon, il y a des gens qui vont faire ça ou qui le font déjà. Mais l'arène d'expression et le nombre de vidéos à produire est beaucoup plus faible. Nous, on choisit de nous adresser à tout le monde. Quelqu'un qui soit urbain ou pas urbain, jeune ou pas jeune, qui soit engagé ici ou là, ou pas engagé du tout. Nous, il faut savoir que comme on est d'abord sur Facebook, la plupart des gens tombent sur nos vidéos alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est que quelqu'un qui partage, l'algorithme de Facebook fait son à la Kazam et tu te retrouves avec ma gueule sur ton fil d'actu. Ces gens-là n'ont pas voulu nous voir. Et du coup, si on ne s'adresse pas à quelqu'un en sachant que celui qui va la regarder n'était pas destiné, ce n'est pas un acte volontaire, qu'on s'immisce en fait un peu par effraction dans son esprit et dans sa vie, si on ne prend pas ça au sérieux en nous adressant à tout le monde, en un sens, on est des connards. Tu vois,
c'est notre métier, nous, on ne voit absolument pas les... Enfin, on pense qu'il y a beaucoup d'hypothèses politiques, beaucoup de manières de tenter des trucs. Et qu'en fait, on a vachement tendance, surtout dans la tradition historique de la gauche, à vouloir avoir raison. Donc on veut que ce soit la bonne stratégie, ce soit faire A, la bonne stratégie, ce soit de faire un truc autonome, machin, l'autre, c'est un truc électoral, et l'un, c'est parti A, l'autre, c'est parti B, etc. Et on doit, il y a forcément quelqu'un qui a raison. Nous, on n'a pas du tout cette ambition où... on propose un travail de décryptage, de transmission d'infos, etc. Et à un moment donné, on s'est positionné sur une option politique. On s'est dit, voilà, ça peut avoir le coup de voter d'après nous pour ça. Mais ça n'empêche pas que d'autres gens peuvent faire d'autres trucs. Et on pense qu'il y a beaucoup à faire comme travail. Et si on laisse les gens tenter leurs hypothèses, nous, on trouve ça extrêmement bien que des gens poussent l'hypothèse de radicalité... d'autonomie loin et cherchent à voir quelle forme de vie ils peuvent créer comme ça, quelle solidarité à des niveaux locaux, qu'ils élaborent ça, qu'ils se confrontent aux problèmes spécifiques que ça pose aussi de tenter ça. Et ils apprendront plein de trucs. D'autres gens tenteront d'autres trucs électoraux et seront confrontés à leurs problèmes, leurs machins. Et on peut espérer qu'à terme, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire, les gens tentent leurs trucs de leur côté, s'engueulent au niveau superficiel, mais quand tu décales de 2 ans, 5 ans, 10 ans, bah, tu as des synthèses à des moments et en fait ça te permet d'avancer quelque part et qu'en fait nous on n'a aucune légitimité à dire toi tu fais un truc pas bien ou toi faut absolument déterminer maintenant quelle est la bonne stratégie.
Eux de l'autre côté par contre ils s'autorisent assez largement à dire vous faites des trucs pas bien.
Oui, ils font la politique non institutionnelle dans le monde
pour dire voilà, pas voter Mélenchon quoi.
Donc quand on a un mec qui est censé être hors de l'institutionnalité et qui écrit dans Le Monde pour dire pour dire ne votez pas tel mec, c'est rigolo. On dit, c'est
il dit pas ne votez pas tel mec. Il dit cette candidature est une illusion.
Oui.
Il dit les gens qui votent pour lui sont dans l'illusion.
Si tu es hors des institutions, pourquoi tu vas pondre ça dans Le Monde? Le Monde pour moi c'est pas le journal de critique radicale de la société. Hein. C'est rigolo quand même.
Sachant que si on prend aussi leur point de vue, un Mélenchon sera forcément 10 000 fois mieux qu'un Macron ou un Le Pen au pouvoir. C'est évident pour eux.
Non, sauf la déception d'espoir. Enfin, on va peut-être pas parler infiniment de ça.
Mais c'est
des effets de position. C'est Bourdieu, il décrit très bien ce que c'est le gauchisme. Et il dit gauchisme, mais ça s'applique dans n'importe quel champ. Dans une arène où il y a des concurrences pour des stratégies et des discours, là c'est l'arène politique, il y a un primat à être plus radical que la radicalité. Nous on a fait une vidéo où on illustre ça avec le champ du djihadisme en faisant l'histoire de l'Arabie Saoudite. C'est une illustration du concept de champ. Et analogiquement que l'Arabie Saoudite wahhabite, il y a une incitation à avoir une position toujours plus radicale,
toujours
plus
djihadiste. Il y a toujours des
super méga orthodoxes,
qui disent la vérité vraie du texte qui a été trahi,
comme
il y en aurait aussi mais dans des trucs plus plus ordinaires, hein. Mettons le champ de l'histoire à la fac, à un moment quelqu'un va faire mieux de l'histoire que les autres en le faisant de manière plus pure. Enfin, c'est un truc très général.
Et
hein,
cette position extrême, radicale, que on appelle en politique gauchisme, cette position-là, par construction, son ennemi particulier, ceux contre qui elle se construit, c'est ceux juste à côté, la gauche institutionnelle,
contre qui
tu veux qu'ils se battent. Ils font des grandes phrases sur le capitalisme et sur le monde néolibéral et blablabla, et ça, tout le monde est d'accord avec eux. Et comme tout le monde est d'accord avec eux, bah, leur position ne fait plus différence spécifique. Le seul endroit avec lequel leur position fait différence spécifique, c'est ceux juste à côté.
Et donc, en fait,
ça explique pourquoi cette radicalité formidable. Moi, j'adore leurs bouquins, hein, je suis pas d'accord avec tout, mais en plus, ils sont plusieurs à l'écrire. On sait pas, mais moi, je remarque qu'il y a plusieurs écritures. Et il y a un type qui écrit comme un marxiste, et j'adore ce qu'il dit. Il fait comprendre trop de trucs. Je sais pas qui c'est, mais si tu m'écoutes, c'est bien ce que tu fais. Et donc, j'aime bien ce qu'il fait, ce gars.
Je pense pas que le comité invisible.
J'aime bien ce qu'il fait. Mais quand ils font leurs bouquins, ok, mais pour aller dans le monde, là, ils se dévoilent comme ceux qui, en fait, leur vrai combat, leur vraie position, leur vrai souffle d'existence, c'est de taper contre celui qui est, en fait, dans leur camp, mais un peu trop institutionnel à leur goût. Et c'est un peu pathétique, tu vois, on pourrait s'en passer, quoi.
Alors, s'agissant de votre ambition et de votre positionnement politique, dont on est en train d'explorer ici un peu les contours et les enjeux, il y a un précédent d'un média en ligne qui ambitionne de changer la manière de produire du discours politique. Je pense à la Tuerca en Espagne, la Tuerca 2010, hein, où c'est Pablo Iglesias qui commence à présenter des émissions. À l'époque, sans doute, les gens ne soupçonnent pas qu'il y a derrière ce média alternatif eh bien, tout un avenir politique qui s'est construit depuis. Hein, c'est devenu Podemos, c'est devenu un parti institué qui part à la conquête des élections, des places, des positions. Alors, est-ce que la Tuerca, ça a constitué pour vous, au moment où vous êtes né pour l'espace public, est-ce que c'est pour vous un modèle, à la fois dans l'origine et dans éventuellement le projet, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une perspective politique
dans... C'est assez simple, donc la réponse, c'est non. vraiment pas du tout. En fait, déjà, on suivait, pour le coup, autant la Grèce, on suit ça très près politiquement, etc. Autant l'Espagne, en fait, on était en réalité assez loin des problématiques de Podemos pendant longtemps.
D'accord.
On s'y intéressait plutôt après coup à ce qu'ils ont tenté.
Ouais.
Eux, c'est quand même assez différent. Mine de rien, ils venaient de la politique. C'était des gens qui avaient fait de la politique et qui, à un moment, se sont dit on va faire une télé à côté, on va faire nos trucs.
D'accord.
Pour parler au fond, comme Mélenchon,
une stratégie
par exemple,
vraiment de
ça
conquête,
ressemble plus à ce qu'a fait Mélenchon. Tu vois, le mec est déjà dans la politique et à un moment, il dit je vais m'adresser aux gens directement.
Oui, enfin, c'est Mélenchon qui a copié sur Podemos.
Oui, c'est ça. Ouais. Là, il y a un rapport.
Oui, d'accord. Et vous, vous ne reconnaissez pas de parenté.
Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, s'il fallait nous comparer à une entreprise un peu similaire, mais sur un autre endroit de l'univers politique, c'est beaucoup plus qu'a fait Soral en France.
Soral,
beaucoup
plus. Vous êtes le contre Soral.
Bah, à la base, quand on s'est lancé, on a beaucoup plus observé nous de chez nous qu'il y avait ce mec-là qui faisait des discours sur Internet, que beaucoup de gens cherchaient à comprendre des trucs sur le monde, qui sentaient que leur vie n'allait pas et que le discours critique sur lequel ils tombaient, c'était celui de Soral et de la galaxie qu'il y avait autour de lui. Mais dont il était un des gros piliers. Et on s'est dit, ce mec-là fait ça dans son canapé, pourquoi pas nous ? Mmh. On va pas dire la même chose.
On a un canapé.
On va pas dire les mêmes choses que lui.
Mais super ton canapé.
OK. Et alors, c'est dans cette démarche de faire un contre-Soral, un contre-canapé, que s'est déployée cette stratégie lexicale qui est la vôtre, dont on a déjà eu l'occasion de discuter en privé, mais ça m'intéresse qu'on ait cette conversation en public, sur votre stratégie lexicale, c'est-à-dire, il me semble qu'il y a un évitement systématique d'un certain nombre de mots supposés fâchés ou des mots supposés repoussoirs, capitalisme, gauche, néolibéralisme, je crois que ces trois notions, je les ai, à mon avis, jamais entendues dans vos vidéos, alors qu'en fait, vous ne parlez que de ça. En fait, vous ne parlez que de ça.
Mais, en gros,
vous évitez ces mots-là. Est-ce qu'on peut revenir sur votre stratégie lexicale ?
C'est vraiment important, tu vois. Il se trouve qu'on n'utilise pas ces mots-là. Mais d'abord... Notre vrai projet, c'est pas d'éviter spécifiquement gauche, capitalisme et néolibéralisme. On tique pas précisément là-dessus. On tique sur les concepts. En fait, d'une manière générale, on parle, on décrit les choses de la manière la plus compréhensible possible. Et c'est plutôt que de nommer un mécanisme avec un concept, c'est, enfin, en gros, chez Hegel, ça s'appelle le niveau de l'abstraction. Au lieu d'utiliser l'abstraction pour nommer les choses, c'est un truc qui est, en gros, un langage accéléré pour parler entre deux personnes qui comprennent déjà ce dont on parle.
Ouais,
et
ouais,
comme
ouais.
nous, on ne s'adresse pas avec ce langage accéléré à une personne dont on est sûr qu'elle comprend déjà ce dont on parle, comme on ne sait pas ça, et bien, en fait, on décrit tout par le réel. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel, c'est une cour, il y a 9 juges
qui
peuvent dire oui ou non sur tel et tel amendement. C'est comme ça qu'on va le nommer. On va pas dire censure constitutionnelle. Et on le dit à la toute fin, une fois qu'on a décrit le mécanisme. Et pour nous, tu vois, les labels comme capitalisme ou néolibéralisme, c'est des concepts extrêmement descriptifs et opérants. Mais si tu les connais pas, si tu les comprends pas, t'as juste quelqu'un qui t'a donné une étiquette qui fait parfois peur, qui génère parfois du désir positif, mais des fois elle fait peur, et, mais qui n'explique pas, qui n'apporte pas
et
de contenu. Et donc on préfère ne pas en parler.
Il y a quand même un truc en deux temps, c'est qu'il y a quand même, quand on a commencé la chaîne, si on veut être... Il y avait quand même un truc spécifiquement politique, donc il y avait certains mots dont on pensait qu'ils pouvaient faire peur à des gens, etc. Et il y avait ça dans un premier temps. Et du coup, si c'était pas nécessaire, on n'allait pas les utiliser. Et après, plus le temps a passé, plus en fait, on se pose plus vraiment cette question. Et je pense que si tu regardes nos vidéos récentes...
Parce que vous n'avez pas besoin de ces mots-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les éviter.
C'est que... Je pense qu'ils ont un coût aussi, c'est ce que tu essayais de dire. C'est que ça a un coût en termes de communication, ça peut bloquer des gens. Les gens entendent un mot comme néolibéralisme, capitalisme, ils vont se dire ça, c'est associé à l'univers, à l'univers mental qu'on se fait d'un gauchiste, d'un quelqu'un qui...
Et vous ne voulez surtout pas passer pour des gauchistes.
Nous, on veut parler, on essaye de parler aux gens qui ne sont pas... Enfin, pas uniquement à eux, hein, mais... On essaie de parler, et ça a l'air de marcher, à des gens qui ne sont pas déjà dans le game, qui ne sont pas déjà intéressés par tout ça.
Ouais.
Et donc, si on commence, c'est ce qui se passe souvent dans un certain nombre de tentatives de faire des trucs de gauche critique, etc., comme on disait il y a un moment. Si on ne fait pas l'effort de traduire, et ben ceux qui sont, on peut faire des trucs très très bien, mais qui vont toucher ceux qui sont déjà chauds.
Ouais.
Et ça, c'est très bien, parce qu'il faut... faire ce travail de critique, d'élaboration conceptuelle, qui peut être aussi empirique, etc., ça dépend. Mais ça s'adresse à un public, qui est le public des gens déjà chauds, qui ont déjà cette culture, ou qui, par le hasard de leur vie, vont rentrer dans ces trucs. Et nous, on est des passeurs avant, plus en amont. Et en fait, maintenant, ça s'est plutôt élargi, mais ce n'est pas qu'on pense spécialement au concept connoté politiquement, c'est qu'on se triture la tête pendant des heures quand on fait nos vidéos, pour être le plus clair possible, tout court.
Oui, j'entends bien. Expliqué certains concepts. Par exemple, le mot oligarchie, vous avez fait un module qui s'appelle « Qu'est-ce que l'oligarchie ?» Bon, là, en fait, c'est un concept qu'on voit passer dans le paysage des discours publics. À un moment, vous le prenez, tac, vous lui donnez du contenu. En fait, on peut faire pareil avec un capitalisme, avec un néolibéralisme, et ça...
Et on pourrait le faire. On pourrait le faire, c'est juste qu'en fait, maintenant, ça s'est un peu décalé par rapport à quand on a commencé. En fait, on pousse, je pense, beaucoup plus loin que quand on a commencé, mais parce qu'on comprend mieux l'exigence de clarté. On passe vraiment du temps, notamment grâce à Xav, qui joue un rôle très important là-dedans, à essayer de dire des trucs qui ne sont pas compréhensibles juste par les gens qui connaissent déjà.
C'est-à-dire, comment se répartissent les rôles dans votre processus de production du blabla d'utilité publique? Toi, c'est quoi ta mission spécifique?
Moi, vu que je pense de base, j'ai une culture beaucoup moins politique que Ludo et Steph, je pense que j'ai plus un travail de... j'essaye de vulgariser, de rendre clair.
D'accord. Tu es le filtre de clarification de ce que les deux...
Voilà, c'est ça, exactement. Et Ludo...
Ludo de pertinence aussi, parce que tu as la clarification, et il y a des fois des trucs, soit carrément des sujets, soit des bouts de sujets, où nous, on se dit, c'est super cool de parler de ça, c'est super intéressant, nous, ça nous excite vachement.
Ouais.
Et Xav, il nous fait, non, mais en fait...
J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît rien à ces questions-là, et qu'est-ce que ça va lui apporter, je me demande... Enfin, c'est la question qu'on essaie de se poser le maximum.
D'accord. Ouais. Toi, t'es monsieur lambda, quoi. Qu'est-ce
voilà,
que ça
exactement.
Fait à celui qui n'a pas de compétences spécifiques sur ces notions-là?
Et qui capte comment vulgariser ce qu'on a à dire.
Ouais.
D'accord.
Parce que un des trucs qu'on a appris sur le temps en le faisant, c'est que... c'est que vulgariser, c'est du taf, quoi.
Bien sûr.
C'est pas
sûr.
Si facile.
Et c'est coûteux quand tu viens d'un game intello universitaire.
Ce qui est ton cas.
Steph et moi, on est plutôt des intellos universitaires. Steph a même fait une thèse. Donc,
quelle formation, en l'occurrence? Une thèse dans quelle discipline?
Moi, je faisais une thèse en psychologie évolutionnaire. Mais j'ai surtout fait, avant ça, j'ai surtout fait de la sociologie.
Sociologie,
et de la
d'accord. Et toi, tu as.
Socio-philo-éco.
Ouais.
Et du coup, non, quand tu as une tête universitaire, tu as envie de rentrer dans les détails, de préciser, de montrer, de nuancer, de montrer ce que ça a de vraiment particulier, tel et tel aspect du monde. Et ça, c'est vrai que tout le monde s'en fout, en fait. Et du coup, c'est très coûteux quand on te le dit. Exact, il nous a beaucoup appris.
C'est quand tu t'adresses au grand public, c'est des niveaux de détails, de nuances, etc., qui, à ce niveau-là, vont plus être un obstacle qu'une aide à la compréhension.
Oui, t'as raison.
Alors que pour des gens qui sont pas dans, qui sont plus chauds, qui ont plus soit fait d'études, soit ont lu des trucs, etc., etc., ou une expérience militante qui les a formés petit à petit, là, la nuance devient intéressante. Là, ça devient vraiment un enjeu de débat de telle option, quelle est la meilleure manière de penser tel concept, tel coin du monde social. Mmh. Mais au niveau d'en dessous, ça va plutôt être un obstacle. Donc voilà, nous, on essaye de ronger notre frein quand on veut rentrer trop dans le détail pour pouvoir continuer à essayer de parler largement, quoi.
Si on veut continuer sur le rôle de chacun, Steph, lui, il a plutôt le rôle, je dirais, d'arriver à trouver des formulations qui vont permettre, comment je pourrais expliquer ça ?
De la concision, d'accélérer la concision et de la conviction. C'est lui qui il écrit beaucoup mieux que nous.
D'accord. Là, c'est plus synthétique. C'est écrit à chaque fois ? Il y a une phase d'écriture.
Un truc bizarre. À part, moi, on n'a pas encore rencontré des gens qui travaillaient comme nous. Je crois que la plupart des gens, j'ai l'impression, sur Internet, écrivent leur texte et le lisent ou l'écrivent, quoi. Mm-hmm. Et nous, c'est un truc bizarre où c'est très détaillé, mais c'est pas écrit phrase par phrase.
Après,
Ludo va faire une prise, il va de 30 secondes, une minute, faire un blabla, et après, nous, on va donner un retour sur la prise, mais ça peut être un retour sur la manière de parler, sur un peu le sens de l'argument, et en fait, ça se décale pendant le moment du tournage. En fait, le moment du tournage, il y a encore un moment d'écriture.
Ouais. Très fort. Parce qu'après, vous retournez à des images pour venir insérer des phrases. Vous refaites la prise en entier à chaque fois.
On a une trame écrite et au moment du tournage, on oralise. Et là, il y a des échanges entre mon oralisation et Steph et Xav. Et petit à petit, on réadapte le brouillon écrit. Et du coup, tu as un brouillon écrit assez détaillé. On s'est assez mis d'accord sur X ou Y trame, manière d'écrire, item. On a mis ça sur brouillon, mais au moment du tournage, on redigère ça pour en faire quelque chose de spontané, réadapté, qui coule et fluide. Mais personne ne travaille comme ça, ouais, ça. Mm-hmm. On est les seuls cons à faire ça.
Non, mais il faut croire que c'est plutôt efficace parce qu'aujourd'hui, vos vidéos, là, les dernières, elles font quel type de score en nombre de vues à peu près ? Quelle fourchette ?
C'est un peu spécial parce que justement, c'est les élections présidentielles et les gens sont en fait chauds.
C'est des hautes saisons.
Mais les dernières, elles font à peu près toutes plus d'un million de vues. Quoi.
Plus d'un million à chaque fois, ouais.
Il y en a quelques-unes qui ont vraiment fait quasiment 10 millions, 15 millions.
Oui, donc il semble quand même que ce soit une assez bonne recette, votre manière de bosser, soi-disant bizarre, c'est quand même, c'est plutôt concluant. Alors, pour informer un peu les gens, moi j'en sais un peu plus parce que je vous ai déjà posé des questions, mais on peut peut-être faire savoir un peu à nos abonnés votre modèle économique. Vous êtes un média indépendant, c'est quelque chose d'hyper important, évidemment, on le sait bien, à hors-série. Mais justement, vous n'avez pas fait le même choix qu'à hors-série, puisque nous, on est une chaîne à péage avec un abonnement. Et donc, vous avez fait d'autres choix. Peut-être vous pouvez expliquer un petit peu sur quoi reposent ces choix. Comment vous sauver votre indépendance ?
C'est un truc en construction, hein, parce qu'on n'est pas encore, justement, on n'a pas atteint le moment où on a un modèle économique très clairement pérenne, quoi. Mais en fait, pour l'instant, on s'appuie essentiellement sur le soutien des gens par du financement participatif. Donc, c'est le site Tipeee où plein de gens nous donnent quelques euros par mois, etc. Donc, ça nous permet. Ça commence à faire des 3-4 000 euros. Bon, on est 3, mais...
Par mois.
Par mois. Et après, on a un peu pigé pour Mediapart cette année. C'est depuis 6 mois, on a fait une fois par semaine une chronique pour leur live. Une fois par semaine, c'est ça. Une fois tous les 15 jours. Et
là, il n'y a pas de risque que ça entrave un peu votre liberté éditoriale, le fait de travailler avec un média plus institutionnel comme Mediapart, qui est quand même un média très puissant, qui est en position de vous rémunérer. Donc, évidemment, il y a une asymétrie qui se crée, un rapport de pouvoir. Est-ce que vous commencez à vous sentir un peu malmené dans votre indépendance, c'est-à-dire
Pour l'instant, c'est clair. En fait, on leur dit, Ils nous disent sur quoi va être le sujet de leur soirée. On leur dit, des fois la veille, des fois trois jours avant, sur quoi on va faire notre vidéo. Ils disent OK, à bientôt. On leur envoie la vidéo. Ils disent merci les mecs, c'était chouette et c'est fini. Donc en gros, on a une liberté éditoriale absolument totale.
Ouais.
Donc pour l'instant, c'est très agréable. Hein. Il n'y a pas de. Ouais. Et c'est, on fait notre vidéo et on leur envoie. Quoi. Après, nous, on fait l'effort souvent. Dans la mesure du possible, que d'avoir une vidéo qui va apporter quelque chose à leur thème de soirée, qui va avoir un lien quand on peut le faire. Mais ça ne va pas.
Oui, mais là, par exemple, il y a le cas de figure de cet entre-deux-tours où Mediapart vous demande un module et puis n'en finit pas de différer la date où vous êtes censé la livrer. À mesure que la date recule, maintenant, on vous demande un module vidéo pour vendredi ou samedi, où là, en gros, le seul enjeu de ce module, ce serait que vous produisiez à votre tour, comme tous les médias, une injonction
à voter. Non, c'est abusé, attends. Non, c'est juste eux, en gros, c'est très particulier cet entre-deux-tours, parce qu'ils vont probablement recevoir le futur président de la République dans une de ses dernières interviews. Ils reçoivent Macron vendredi soir. Et ça, ils ne pouvaient pas le savoir, la semaine dernière. Leur live était censé être le mercredi. Mais le mercredi, c'est le soir du débat.
Du coup,
eux nous ont prévenu début de semaine que le live de mercredi ne pouvait pas se faire, qu'il allait se faire jeudi. Et ça, on a très bien entendu. C'est sûr que si tu as le débat de l'entre-deux-tours, c'est à pair de faire ton live avec 5 pelés qui vont te regarder. Donc c'est normal qu'ils décalent. Et après, eux, je pense, à la suite du positionnement de Plenel, à la fois sur le site de Mediapart, à France Inter et dans beaucoup de médias traditionnels, qui a appelé un front républicain à une responsabilité exigeante en face d'Emmanuel Macron, je pense qu'à la suite du positionnement de Plenel, ils ont commencé à échanger avec les équipes de Macron, on n'a aucune info de tout ça, et pour arriver in fine à cette date de live exceptionnelle, faire barrage au FN, on reçoit Macron le vendredi. Et du coup, pour nous, c'est sûr que c'est pas évident, puisque nous, on doit produire une vidéo pour eux qui, le lendemain matin du live, est diffusée sur Facebook. Et là, on se retrouve, mais c'est un truc extrêmement particulier, qui tient uniquement à l'entre-deux-tours et au fait que le débat était prévu mercredi, on se retrouve à devoir livrer une chronique vendredi soir pour qu'elle soit diffusée sur Facebook samedi matin, soit la veille, soit un moment où si tu ne parles pas, ou vote Macron, ou ne vote pas Le Pen, ou vote Le Pen, mais ça on ne va pas le faire, ou abstiens-toi, si on ne prend pas des positions tranchées la veille d'un vote, la vidéo ne sert à rien, c'est tu tires dans l'eau. Et du coup, ça c'est un inconfort, mais qui est extrêmement particulier et qui doit à la situation.
C'est pas du tout comme ça qu'on travaille
avec eux, on travaille très très bien, il n'y a pas de problème.
Mais donc pour vous, ça ne vous met pas en danger de renoncer à une pige, parce que du coup, vous renoncez à livrer, c'est-à-dire vous renoncez à une partie de votre rémunération mensuelle,
en gros, c'est ça qui fait qu'on n'est plus indépendant. En vrai, le truc, c'est que nous, en ce moment, on réfléchit surtout à élargir ce qu'on va faire l'année prochaine. On va se donner le temps de savoir vers où on veut aller, mais nous, notre ambition, c'est de grandir, de pouvoir travailler avec d'autres gens, pas seulement de pouvoir nous payer, nous, correctement, mais de pouvoir aussi travailler avec d'autres gens. Et du coup, là, on réfléchit à différentes pistes, mais pour l'instant, on en est vraiment au début de la réflexion, parce qu'on a décidé de se donner corps et âme à ce temps de la présidentielle pour faire le maximum de transmission, de réflexion, etc., qu'on pouvait. Et on s'est donné, il y a 6 mois, et maintenant on y arrive, à ce moment de cet été, le temps de réfléchir et de se dire où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va essayer de faire de l'édition, est-ce qu'on va y avoir aussi peut-être une partie d'un site qui serait payant, mais avec du contenu, machin, etc. On aborde cette réflexion, mais on est au tout début, quoi. Et on va essayer de voir aussi un peu pourquoi les gens sont chauds, nous, ce qui nous botte le plus, on est trois, il faut que ce qu'on fasse, vers où la direction qu'on prenne à terme nous aille à tous les trois. Donc, en vrai, c'est là où on a réussi à trouver un truc qui nous a permis de vivre à peu près ces derniers mois. Mais après, ce qui va se passer vraiment dans les prochains mois, c'est qu'on va réfléchir ensemble à faire autre chose que juste nous, nos vidéos, tous les trois.
Parce que là, c'était à l'arrache. On habite en coloc, c'était pas du tout prévu qu'on se retrouve à taffer ensemble sur plein d'années, de juste commencer des vidéos, parce que voilà, on commence des vidéos, et après, on s'embarque, mouvement loi travail, maintenant présidentiel, et c'est tout à fait, ça nous convient, on a bien fait
de s'embarquer. Mais vous avez été attrapé dans quelque chose que vous
n'aviez pas... Mais là, maintenant, il faut qu'on s'asseye et qu'on se regarde et qu'on dise, bon, les gars, on va être associés business, sûrement pour une bonne partie des années qui viennent. C'est des discussions qui sont plus sérieuses que commencer une vidéo à l'arrache avec des joues sur un canapé. On a choisi de prendre cet entre-deux-tours, de prendre nos vacances pour nous reposer de cette espèce de rush fou qu'on avait à la fin de l'avant-premier tour de l'élection présidentielle. Donc là, on se repose et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est qu'on va devoir avoir cette réflexion tranquillou pour démarrer un modèle économique plus pérenne et qui nous convienne mieux que cette activité à l'arrache qui ne... On n'a pas signé pour 5 ans d'activité à l'arrache. Là, il faut qu'on trouve un truc qui nous convienne vraiment. Et la réflexion du modèle éco, c'est pour la saison prochaine.
Ouais. Et s'agissant de votre indépendance économique, il y a aussi la question de votre indépendance politique. Parce que là, le fait que vous ayez appelé explicitement à voter pour Mélenchon, déjà vous-même, vous étiez adhérent de la France Insoumise. À titre individuel, vous avez cliqué sur « Oui, je soutiens la France Insoumise ». Et par ailleurs, est-ce que ça vous a été reproché par ceux qui vous suivent, le fait que vous preniez un engagement explicite en faveur d'un candidat ?
Alors déjà, je vais répondre à ta question sur deux plans. Est-ce que ça nous a été reproché un peu par ceux qui étaient chauds pour un autre candidat, notamment pour Asselineau. Il y a des gens qui sont chauds sur Internet pour Asselineau, et donc eux, ils nous ont pas mal reproché de prendre position pour pas Asselineau, en fait. Ça, c'était quelques milliers de personnes, peut-être, je sais pas. Et après, il y a énormément de gens qui nous ont remerciés d'avoir eu le courage, parce que nous, on s'en est rendu compte, quand on l'a fait, ça coûte quand même pour des gens qui produisent du contenu comme ça, de dire explicitement qu'ils vont voter pour quelqu'un. Beaucoup de gens le disent à moitié, en passant par la bande, etc. Nous, on a choisi de le faire honnêtement. Et ça a un certain coût. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça nous a plutôt apporté un certain respect de la part des gens, de voir qu'on ne cachait pas ça.
C'est-à-dire que ce qui était salué, c'est le courage de l'engagement, finalement.
Mais plus généralement, nous, on a un combat qui est de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de producteur de contenu neutre. Ouais. Il n'y a pas même les journalistes, même le Décodex, le machin, ce n'est pas
surtout
neutre.
Le Décodex.
Voilà, il n'y a pas de producteur de contenu neutre. Il y a des producteurs de contenu partisans. Il y a des gens qui sont les producteurs de contenu du PS, de machin, de trucs, qui vont faire un contenu pour le PS. Tu as des gens qui ne sont pas partisans, oui, mais chacun a un point de vue. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire que l'honnêteté, l'objectivité, c'est de donner les éléments qui permettent de saisir d'où on parle. Tout le temps. Donc nous, depuis le début de notre chaîne, on n'a jamais dit on est neutre. On a toujours dit on essaye de transmettre des outils de compréhension du monde qui nous semblent aller dans le sens de défendre un peu ce qu'on a de démocratie et qui nous semble permettre d'aller dans le sens de l'intérêt général. Alors c'est assez large, mais en tout cas, ça met quand même un horizon. Et après, nous, selon les moments, ça peut prendre différentes formes. Nous, on n'est pas dans le mouvement France Insoumise, on n'est pas partisan dans ce sens-là. Par contre, en tant qu'individu, à un moment, si on décide qu'il y avait un truc qui pouvait se jouer clé et que nous, on allait faire ce pari-là à titre perso, on s'est dit, c'est mieux. On en est arrivé au point où on dit, c'est mieux de le dire.
Oui, d'être transparent.
Voilà, les gens savent comment le lire après. Ils verront bien dans les mois et les années qui viennent, ils verront bien si on est partisan, si on est tout le temps en train de relayer une ligne d'un parti sans recul, ou si en fait on a juste été engagé et qu'on a un recul sur ce qu'on dit.
Et puis surtout, regarde, on fait nos vidéos comme ça, comme ton pote qui te parle en face, assis sur une chaise. Ton pote qui te parle en face, assis sur une chaise, il vote bien quelque chose, tu vois. Des citoyens,
bien
tu vois. Dire ce qu'on va faire, enfin, faut aussi se détendre. Hein. Tu vois, tout le monde a une position dans ce merdier. Un premier tour d'élection présidentielle, c'est pas la départementale partielle dont tout le monde s'en fout, c'est un truc qui est important. Et du coup, c'est un peu naturel aussi que quelqu'un s'exprime et dise ce qu'il fait. Et là, pour une fois, on était d'accord tous les trois, parce que ça arrive pas souvent. Et du coup, nous, on pense que c'est aussi assez naturel d'exprimer notre point de vue de citoyen, puisque pour beaucoup de gens, on est un mec posé qui ressemble à leur pote, qui parle comme leur pote, tout naturellement. Et donc, tout naturellement, ça peut se faire de dire ce qu'on raconte. Tu vois.
Alors, surtout dans une situation qui était historiquement exceptionnelle, hein, parce que on a commencé un peu là-dessus, mais c'est pas du tout rien ce qui s'est passé autour de cette candidature. Il se trouve que c'était Mélenchon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais dans ce paysage politique de la gauche française, un mouvement d'une telle ampleur qui a convaincu autant de gens, notamment les jeunes, mais pas uniquement. On a regardé les résultats finement. C'est quand même assez large comme succès.
Le vote Mélenchon, effectivement, est incroyablement transgénérationnel, en fait.
C'était pas évident du tout que la candidature de Hamon s'effondre à ce point-là et que la candidature de Mélenchon prenne à ce point-là. Même un mois avant, nous, on ne l'aurait pas deviné, deux mois avant. Il s'est passé vraiment un truc fort. Et du coup, si on avait eu Macron-Le Pen et qu'on avait eu Mélenchon Troisième à 0,1%, on se serait
dire
dit merde.
À 0,1% d'accéder au second tour.
On se serait dit merde. Ouais. On n'a pas. Sinon, on se dit qu'il se passe un truc là. Ce serait, enfin, on a une responsabilité de le dire. Enfin, et s'il y a des gens qui suivent notre avis et qui sont un peu convaincus de ce qu'on dit, ce serait trop con de pas le faire. Mmh. Après, s'il avait été à 10%, on l'aurait pas forcément dit parce que ça il y a aussi le
ça apporterait.
Ça aurait moins apporté, ça aurait été pas la même situation aussi, quoi. Mmh. Là, c'était vraiment une situation.
Et là, ça vous paraît une force politique qui continue d'avoir de l'avenir, cette France insoumise, ouais.
Ça,
à 500 000 soutiens avec ce très beau score. Est-ce que c'est un mouvement sur lequel vous allez continuer d'être attentif et éventuellement de par exemple, le soutenir pour les législatives.
Ils font ce qu'ils font, quoi.
Vous n'avez pas de position a priori sur la poursuite de cette dynamique-là.
Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. C'est bon.
Oui,
courage,
mais vous, parce que là, vous, sur la campagne de Mélenchon, vous avez été de précieux relais.
Ouais, mais
parce que vous avez flingué la candidature Macron. Vraiment beaucoup relativisé la candidature Hamon. Enfin, et donc en fait, délibérément ou pas, vous avez portez vos forces à la candidature Mélenchon. Et pas seulement à 3 jours du premier tour, quand vous dites, nous, voilà, on a décidé, on a hésité à vous le dire, mais on va voter Méluche. En fait, ça faisait déjà, moi qui suivais votre travail, je savais que c'était du pain... pain béni pour Mélenchon, ce que vous faisiez depuis des mois. Donc vous lui avez sans doute apporté des voix.
Mais là, même ce qu'on fait depuis 2 ans.
Oui.
C'est vrai que c'était particulièrement... le cas est sensible pendant cette campagne. Mais en vrai, nous, ce qu'on voit quand on rencontre des gens qui nous disent comment ils sont un peu éveillés à la politique, pas au sens institutionnel des partis, mais à la réflexion politique en général avec notre chaîne, il y a plein de gens qui, quand ils capent des trucs sur les lobbies, sur les blocages en Europe, sur les arnaques du PS, sur ceci, pendant 2 ans, ça forme politiquement.
Bien
et il y a pas mal de gens que... formés par cette compréhension du monde-là, sont allés vers Mélenchon.
Le vote, et une fois qu'ils étaient dans le projet de voter, c'est la candidature qui s'imposait pour eux, c'était celle de Mélenchon.
De manière générale, on pense, je vais faire vite, que les moments politiques, institutionnels les plus importants pour le grand nombre, c'est l'élection présidentielle. Parce qu'elle emporte les législatives et parce que c'est ici que peut se jouer la possibilité d'une constituante qui va rebattre les cartes du pouvoir et de l'implication populaire et de la souveraineté populaire. Et donc, pour nous, l'élection présidentielle tranche avec toutes les autres élections.
Oui.
Les européennes, c'est pour rigoler. Tu peux gagner des sièges parce que c'est la proportionnelle, mais tu as 0 pouvoir si tu finis au Parlement de Strasbourg. Donc c'est pour rigoler. Les élections régionales, c'est cool si tu veux parler des menus, des cantines, des lycées et pour faire quelques aménagements. Mais en fait, c'est pour rigoler.
Oui, mais là, toutes les législatives, c'est pas la même chose.
Les législatives, c'est un magma politicien. On pourrait décrypter à l'infini le magma politicien. Là, on pourrait parler longtemps de la stratégie de Macron, de ce qu'il va faire, Mais en fait, c'est du gloubi-boulga qui, pour le rendre clair, simple et surtout transposable dans la circonscription de chacun, garde la pêche.
C'est très compliqué de parler
des législatives, tu vois. Moi, en un sens, même si j'ai pas de rapport avec eux, ça me ferait plaisir qu'il y ait un bon score de la France insoumise et surtout un effondrement du Parti socialiste et pas de victoire de En Marche, ce mouvement de pacotille qui renouvelle rien du tout. Donc ça me ferait plaisir qu'il y ait ce genre de résultat. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, sachant l'éclatement et l'infinité des magouilles, des combines, à quel point est-ce que rien ne sera lisible. C'est une élection qui est très difficile à expliquer. L'élection présidentielle, pour nous, et c'est une lecture institutionnelle très classique de la Ve République, c'est l'élection qui a le plus de sens. Et comme en plus, c'est l'élection qui institutionnellement te permet de déclencher une constituante, ce que ne permettent pas les législatives. Parce que pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle, il faut le Congrès, c'est-à-dire la majorité absolue des inscrits à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc du coup, les législatives ne te permettent pas de faire une constituante, mais la présidentielle, si. Et donc du coup, quand même, c'est très particulier l'élection présidentielle. Là, on est vraiment en haute saison et en rush de haute saison. Normalement, on sera plus loin des guéguerres partisanes. Nous, on parle à tout le monde. Personne n'est candidat de tout le monde aux législatives, donc c'est mort.
Ouais. Dernière question, un petit peu en petite provocation. Parmi les gens que vous avez interviewés, parce qu'il vous arrive parfois de faire des interviews quand vous avez les financements pour aller par exemple à Bruxelles, interroger 2 membres du CEO, interroger des gens qui travaillent sur le lobbying à Bruxelles, il y a l'un de ces 2 personnes que vous avez interrogées qui vous dit « Le lobbying, c'est comme les médias sociaux, l'utilisateur est le produit. » Il ajoutait « Si tu ne paies pas, c'est toi le produit. » Or, vous vous doutez bien que que cette phrase vous concerne aussi. En tant qu'utilisateur de Facebook, hein, vous êtes diffusé via Facebook. Or, Facebook, ce n'est pas exactement un espace neutre, bienveillant, philanthropique. Bon, c'est un endroit où nos données sont récupérées, revendues, etc. Comment vous vous situez en tant qu'usager de Facebook et donc aussi en tant que produit de Facebook? Comment vous arrivez à...
Je croyais que ta question allait être plus provocante. Je croyais que tu allais nous demander comment nous on utilise vu que les gens ne payent pas forcément, comment nous on les
manipule.
On les manipule ou qu'on les fait payer,
je
sais
pas. Non,
c'est
plutôt vous ramener à votre condition. Vous êtes de grands dénonciateurs de modèles économiques manipulatoires et vous êtes vous-même pris dans la nasse économique.
Pour nous, en fait, c'est simple. Hein, on veut parler à des gens. Les gens, ils sont sur YouTube, Facebook, nanana, on n'a pas le choix.
Ouais, mais en attendant, du coup, vous les collez à l'écran.
Bien sûr.
Par ailleurs, vous les amenez à livrer leurs données privées.
Personne ne s'est inscrit sur Facebook uniquement pour suivre les vidéos de Zone Causée.
On le sait pas. Ça se trouve, si.
Salut à
Zuckerberg, rends-nous l'argent.
Et personne ne va quitter Facebook parce qu'à un moment, on dit nos vidéos ne sont plus sur Facebook. Donc en fait, on acte le fait que les gens, très majoritairement, sont sur Facebook, utilisent YouTube, comme d'autres gens avant regardaient la télé, faisaient ceci, cela. Et si on fait un pari qui est le nôtre, et qui n'est pas le pari que doit faire tout le monde du tout, mais si on fait le pari qui est le nôtre, qui est d'essayer de parler à beaucoup de gens, on est obligé d'être là.
Il n'y a pas d'autre endroit pour faire ça.
On fait le même pari que les autonomes qui vont sur le monde, quoi.
Oui, mais justement, vous leur reprochiez que les autonomes aillent s'exprimer au monde. Vous trouviez que c'était une contradiction coupable.
On dit que d'après une position de pureté, c'est rigolo.
Ouais.
On est les derniers à reprocher quelque chose.
Oui. Vous revendiquez pas de pureté ni de radicalité.
Surtout, si on veut pouvoir parler à des gens, non, on va pas commencer à faire un truc sur une plateforme qui est géniale, absolument safe, mais où il y a 4 personnes qui l'utilisent. Tu vois. Enfin, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Même des fois, on a essayé d'utiliser des logiciels libres, des trucs, etc. Il y a des moments où quand ça plante, t'arrêtes, tu vois. Alors que t'avais envie de le faire.
Oui, ce que vous voulez, c'est l'efficacité. Ça nous empêche pas. Le critère, c'est l'efficacité.
Voilà, mais comme tu le sais aussi, ça ne nous empêche pas de critiquer la main qui nous nourrit. Et comme tu disais qu'on était allé à Bruxelles, on n'avait pas trop de financement. En vrai, on y était allé pour...
C'est pas le Tipeee qui vous a permis ça ?
Non, tu sais, on a pris un car Macron, ça nous a coûté 15 balles chacun. Mais en fait, on avait accompagné la youtubeuse, etc. Avec le truc de Juncker. Bon, il se trouve qu'il y avait eu des bisbilles avec YouTube. On a fait des vidéos pour... On les a aidés à faire des vidéos pour... dénoncer la tentative de censure de YouTube/Google, tu vois, qui sont, genre, si on a des clients, enfin des
cibles,
gens, c'est eux, tu vois. Ouais. Donc bon, ça, c'est, on utilise ce biais, ce moyen, qui est aussi un biais aussi.
Ouais.
Bon, par pragmatisme.
Personne ne fera le reproche à un politique de faire un meeting à la Accor Hotel Arena en finançant le grand capital. Personne ne va te dire, si tu fais une réunion publique dans tel troquet et que le patron, en fait, il a viré ton frère pour une sale histoire de droit du travail, ça va. On est là où est le public et on réunit le public là où il peut être réuni. Et tout le monde a toujours fait ça dans toutes les dynamiques collectives depuis que le monde est monde.
On utilise les outils, c'est juste que là maintenant, c'est
Facebook et c'est les réseaux sociaux. Et si on doit parler des réseaux sociaux, c'est plutôt une chance et une opportunité politique de diffusion qu'un entonnoir malsain et dégueulasse a donné, même si ça l'est aussi.
Bah oui,
mais il faut percevoir à quel point ce truc permet de libérer la parole, permet d'exprimer des points de vue, de se sentir légitime à revendiquer, permet de partager des opinions, des infos. Enfin, c'est fantastique politiquement, les réseaux sociaux, tu vois. Même si c'est abject dans la collecte de données et dans le pouvoir des GAFA. Mais il faut comprendre qu'on est dans un âge où il y a cette contradiction-là, et c'est pas évident.
Il sera peut-être un moyen un jour pour changer tout ça, quoi. Et créer des réseaux sociaux, des plateformes beaucoup plus pures, propres que Facebook, d'éveiller des consciences. C'est peut-être le moyen par lequel on va faire changer ça.
C'est vrai, peut-être vous travaillerez à faire advenir cette plateforme qui ne soit pas une vaste escroquerie. Bon, et ben merci beaucoup à vous trois, Xavier, Ludo, Stéphane. Merci infiniment. Ça fait plaisir de discuter avec énergie, enthousiasme, plutôt que de se foutre sur la gueule sur les réseaux sociaux, parce que ces derniers jours, c'était plutôt ça.
Voilà. Vous connaissez l'UPR.
J'espère que cette émission vous aura apporté de l'énergie, de l'ardeur pour l'avenir qui reste à construire. Il y a du boulot. Bonne semaine et à très bientôt pour une prochaine émission. Salut.
Thank you.